Et cette semaine, avec notre géopolitologue et animateur et chroniqueur maison Daniel Habert, on revient sur les conséquences géopolitiques des dernières annonces occidentales sur la reconnaissance d'un État de Palestine. Voici donc Daniel Habert au micro, comme d'hab, de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka ce matin pour nos conversations du lundi matin 7h15. Alors Daniel, ces dernières semaines, plusieurs pays ont annoncé enclencher un processus de reconnaissance de l'État de Palestine. Cela a été lancé par le président français Emmanuel Macron. Plusieurs autres pays ont suivi. Cela a des conséquences géopolitiques. Il y a également des conséquences géopolitiques de cette guerre qui est menée par Israël depuis le 8 octobre 2023. Elles sont relativement lourdes. Faisons un point justement géopolitique avec vous.
Oui, la situation d'Israël aujourd'hui, non seulement est difficile, elle est délicate et je crois que ça fait très très longtemps dans son histoire qu'Israël n'a pas subi tant de pression et n'a pas eu ce sentiment d'isolement, hein, d'avoir le monde contre lui. Il faut dire que c'est les pressions qui s'exercent contre Israël viennent de partout, mais évidemment ce sont celles qui viennent de l'Occident qui devraient ce sont les alliés naturels d'Israël qui sont le plus préoccupantes. Quel est le centre même de tout ça? C'est la campagne médiatique. Il faut jamais oublier que tout ça est le résultat d'une campagne médiatique qui est menée par l'islamisme mondial. Ça a un nom, hein, c'est les frères musulmans, qui sont les alliés du Hamas et qui ont mener cette campagne de façon véritablement explosive depuis le mois de mars, depuis qu'Israël a repris la guerre à Gaza en mettant fin à un cessez-le-feu qui aboutissait à laisser le Hamas à Gaza, parce que c'est ça le fond de l'affaire. Donc il semble bien que cette campagne réussisse sur l'Occident, et essayer de comprendre pourquoi elle réussit en Occident, c'est parce qu'elle s'appuie, elle vise les opinions publiques. Et les opinions publiques, on le voit bien, elles sont sollicitées chaque jour par des images, par des chiffres qui dénoncent une sorte de catastrophe comme jamais vue dans l'histoire du monde. C'est une fable, des catastrophes, on sait qu'il y en a, hélas, toute l'histoire, et même aujourd'hui, il y en a des bien pires, mais les opinions sont persuadées que c'est la pire, et donc on voit que les opinions publiques occidentales ont cédé devant cette campagne, et donc elles font pression elles-mêmes, ces opinions publiques, sur leurs dirigeants. Et donc je crois que, vous signaliez le président Macron, je crois que le président Macron et les autres cèdent à la pression de leurs opinions publiques, même s'ils ont la certitude que ce qu'ils font est symbolique et probablement contraire à leur intérêt. Ils le font parce qu'il faut céder. C'est la démocratie aujourd'hui, démocratie médiatique, qui les oblige. Et donc Israël est invité à céder, d'autant qu'en Israël même, il y a une pression intérieure qui est montante. Alors juste un mot pour terminer votre question, qu'est-ce que ça veut dire céder? Pour Israël, ça veut dire accepter un cessez-le-feu maintenant, récupérer les otages, libérer les criminels. Maintenant, on sait que parmi les criminels qui seraient libérés, il y aurait ceux du 7 octobre. Donc ça, c'est quand même lourd. Et mais surtout, ça aboutit à laisser le Hamas à Gaza. Et donc, ça serait une victoire dont on a peine à s'imaginer combien elle serait importante pour le Hamas. Il viendrait instantanément le héros de tout le monde musulman, je dirais même au-delà du monde musulman, de tout ce qu'on appelle le Sud global, 140 pays dans le monde qui ont un ressentiment envers l'Occident, dominateur et soi-disant colonialiste. Et Israël elle devient la quintessence, le symbole de cet Occident oppresseur. Et donc pour Israël, s'il cédait aujourd'hui, il aurait la félicitation de tous ces Occidentaux, mais il resterait tout seul avec cette menace à gérer.
Justement, vous avez plusieurs fois utilisé le mot céder. Si Israël cède aux pressions et accepte les conditions actuelles, que se passe-t-il?
Écoutez, plus rien n'est possible. C'est ça que les Occidentaux j'imagine, comprennent mais font semblant de pas comprendre. La première chose, c'est qu'il n'y a plus de perspective de solution de la question palestinienne, cette fameuse solution à deux États. Si on laisse le Hamas à Gaza, c'est exactement le contraire du but poursuivi, puisque le Hamas n'est pas partisan d'une solution à deux États et deviendrait le porte-parole de l'ensemble des Palestiniens et du monde musulman derrière pour refuser la solution à deux États. Donc on est dans un jeu contradictoire complètement absurde où les Occidentaux font semblant de comprendre que il se passerait rien et que Israël doit laisser le Hamas sur place. Et en même temps, on entend Macron et tous les autres disent il faut désarmer le Hamas. Sauf qu'ils disent pas comment. Et la seule entité capable d'aujourd'hui de désarmer le Hamas, c'est Israël. Il n'y en a pas d'autres qui sont prêts à faire le sale boulot. On ne voit pas les Saoudiens et d'autres pays arabes entrer à Gaza et faire la guerre à Gaza, avec tous les risques que ça comporte pour désarmer le Hamas. Et on ne voit pas comment les Occidentaux eux-mêmes arriveraient à le faire. Donc on est dans une espèce d'impasse. Savoir aussi que si ça se passait comme ça, non seulement on n'aurait pas de solution à la question palestinienne, mais on n'aurait pas de solution ce qu'on appelle une paix au Moyen-Orient, parce que cette paix au Moyen-Orient, on l'a dit et répété, elle est beaucoup liée à l'attitude de l'Arabie Saoudite, et donc il n'est pas question pour l'Arabie Saoudite de s'allier à Israël, si Israël cédait, n'arrivait pas à vaincre le Hamas. Si le Hamas reste à Gaza, pour l'Arabie Saoudite, c'est une condition de pas signature. Donc on aurait évidemment aucune solution de paix. Quant à l'Iran, bah, il serait renforcé, il est déjà en train évidemment de reprendre son programme nucléaire, mais il serait évidemment en bonne position pour rétablir la puissance du Hamas, faire la même chose avec le Hezbollah, avec les Houthis et toutes les milices. Et puis on voit bien qu'au bout du compte, les Américains, si ils devaient être que seulement le soutien d'Israël et s'ils n'avaient pas les Arabes comme l'Arabie Saoudite aux côtés d'Israël face à l'Iran, hésiterait à s'engager. On sait bien que les Américains ont beaucoup de mal à vouloir s'engager à l'étranger. Donc on arrive à une impasse totale créée par les Occidentaux eux-mêmes, comme s'ils étaient totalement aveuglés par ces opinions publiques et par cette campagne qui marche très fort.
Oui, justement, à part les États-Unis, on assiste à un certain aveuglement occidental. Comment est-ce qu'on l'explique?
Non, mais ça, c'est à nouveau, c'est cette guerre de l'information. Je crois que ceux qui ont perdu cette guerre, c'est-à-dire les milices et l'Iran, ont compris qu'ils n'arriveraient pas à vaincre Israël militairement. On voit que les guerres économiques, qui sont une espèce d'alternative à la guerre militaire, fonctionnent pas bien parce que il y a beaucoup de façons de contourner les sanctions. Il reste la dernière guerre, qui est la guerre de l'information. Et celle-là, on s'aperçoit que l'islamisme mondial l'a bien compris et est le seul au monde à maîtriser cette guerre de l'information. Ils ont les concepts, alors génocide, famine, c'est extraordinairement bien exploité. Ils ont l'argent. L'argent du pétrole, on sait d'où il vient, Qatar, même l'Arabie Saoudite et beaucoup d'autres. Ils ont les techniques probablement qui viennent de l'Union soviétique, même de l'Empire des Tsars, et qui sont aujourd'hui menées par les Russes, qui aident techniquement, évidemment, à déstabiliser l'Occident. Cette gestion diabolique des réseaux sociaux. Et puis, toute cette campagne trouve des relais en Occident. Les groupes islamistes qui sont déjà installés en Occident, qui ont pignon sur rue et qu'on ne sait pas gérer, tous ces alliés gauchistes, wokistes de l'Occident, et puis les médias qui, par idéologie, adhèrent à cette campagne, en France, Le Monde, Libération, en Grande-Bretagne, la BBC, New York Times aux États-Unis, la CNN, qui valident tous les mensonges. Et on est face à au fait, et c'est ça pour ça que ça marche bien, à des populations occidentales qui sont déjà déboussolées, d'une part par la crise identitaire qui est liée à l'immigration. Les gens savent plus où ils sont. Et puis à la crise économique, hein, depuis 2008, depuis le Covid, depuis l'affrontement États-Unis-Chine et depuis les guerres commerciales que mène Trump, on a une crise économique, on a des difficultés économiques. Donc tout ça, toute cette guerre de communication est efficace sur des populations tout à fait déboussolées.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles conversations.